Good morning, guten Tag, bonjour, bienvenue sur Melting Talk. Aujourd'hui, jeudi 11 mai, je vous présente la deuxième partie de l'interview que j'ai réalisée avec Robert Brett, sénateur des Bouches-du-Rhône, sur la loi DAFSI, mais dans cette deuxième partie, plus particulièrement sur le Sénat, son fonctionnement, ses dysfonctionnements, les conditions d'élaboration des lois avec un petit chapeau sur le CPE et les allers-retours de la loi sur l'égalité des chances entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Bon, c'est une question que je me posais en venant. Je me disais, depuis que j'entends parler du Sénat, on dit toujours en France, le Sénat est à droite. Et je me suis dit quand même, au niveau des gouvernements, il y a souvent une alternance droite-gauche, et ça n'a jamais affecté les répartitions des partis politiques dans le Sénat. Comment ça se fait ?
Tout simplement parce que le Sénat a été conçu dans la Constitution de la Ve République comme un verrou institutionnel, où par son mode d'élection, même si les choses sous la pression sont en train d'évoluer, favoriser plutôt l'aspect notable du côté des élus et favoriser plutôt les départements ruraux par rapport aux zones urbaines. Et avec un mode d'élection, puisque nous sommes élus au second degré par d'autres élus, donc ça veut dire que le rapport de force découle pas... Il n'est pas automatiquement en harmonie avec les changements qui peuvent intervenir par le suffrage universel à l'Assemblée nationale. Il y a même toujours un décalage par rapport aux parlementaires, aux sénateurs tels qu'ils sont élus. Son mode d'élection et le fait qu'il y a un panachage entre les départements ruraux, en gros tous les départements qui élisent aujourd'hui à entre... deux ou trois sénateurs, c'est un scrutin uninominal qui favorise l'aspect notable. Et bien souvent, c'est ancien ministre, ancien député, président de conseil généraux ou le maire de la grande ville du département qui a une haute main sur ses grands électeurs à travers les mandats qu'il a tenus. Aujourd'hui, les zones rurales sont surreprésentées en nombre par rapport aux zones urbaines. Ce qui fait que ces départements qui, de tradition, sont plutôt à droite qu'à gauche, il y a une majorité qui se rétrécit d'année en année, mais qui continue à être effective, et qui fait que, puisque le Sénat a les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que l'Assemblée nationale, le Parlement, il a deux chambres où les lois font la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. La seule différence, c'est que l'Assemblée nationale a le dernier mot sur un texte pour une loi ordinaire, après avoir fait une ou plusieurs navettes et s'être mis d'accord sur les articles votés différemment dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, où il y a 7 sénateurs et 7 députés. Et pour toutes les lois organique ou constitutionnel qui donc fixe le cadre constitutionnel de la vie de notre pays, il faut qu'elle soit votée à l'identique. Donc ça veut dire que jamais une assemblée nationale à majorité de gauche pourrait arriver de sa propre initiative à modifier la Constitution, puisqu'il faudrait un vote à l'identique au niveau du Sénat. C'est pour ça que je parlais de verrou constitutionnel. Et en même temps, le Sénat permet, par exemple dans la période 97-2001 où il y avait à l'Assemblée nationale une majorité de gauche, un texte voté à l'Assemblée nationale était plus ou moins raboté par le Sénat qui jugeait que toute une série de choses allaient trop loin par rapport à son positionnement. Et comme à un moment donné il fallait que la loi soit votée et trouver un point d'équilibre, le gouvernement de gauche essayer de trouver ce point d'équilibre, et même parfois était bien satisfait que la droite lui demande de retirer tel aspect, parce qu'il avait dû céder à la pression de ses députés de gauche à l'Assemblée nationale. Donc le Sénat a un pouvoir important, d'autant que, contrairement à l'Assemblée nationale, où le président de la République a le pouvoir de dissolution, nous, au niveau du Sénat, nous sommes élus et personne ne peut dissoudre l'Assemblée, le Sénat. Et en plus, il y a une autre particularité, on l'a vu avec le texte sur le CPE. À l'Assemblée nationale, le gouvernement peut utiliser l'article 49.3 pour faire cesser un débat et donc faire voter automatiquement la loi. Nous, au niveau du Sénat, il n'a pas cette possibilité-là. Donc, ce qui montre que le Sénat a non seulement des pouvoirs à l'identique de l'Assemblée nationale, mais dans un certain nombre de domaines, a même des pouvoirs plus importants que l'Assemblée nationale, ce qui est une anomalie dans notre démocratie par rapport à l'Assemblée nationale qui est élue au suffrage universel, où nous, élus du second degré, nous sommes des élus, mais bon, nous n'avons pas la même légitimité auprès de notre peuple et surtout par rapport à ses attentes ou ses aspirations qu'il peut y avoir. Donc, il faudra, dans le cadre d'une sixième république, réfléchir là aussi à une évolution. Alors, certains prônent la disparition du Sénat. Moi, je suis plutôt pour une deuxième assemblée où la démocratie participative et la citoyenneté pourraient s'exprimer, un petit peu à l'image des conseils économiques et sociaux qu'on a au plan national avec des syndicalistes ou des représentants chambres de commerce ou des chambres d'artisans, des métiers.
Avoir... Je vous interromps juste, mais c'est justement une des questions qui se posent quand on regarde un peu l'agitation qu'il y a dans les blogs en ce moment sur Internet. Beaucoup de gens sont mécontents de ce qui se sont passés sur le CPE parce que bon, ce coup d'annonce de dire bon, on promulgue la loi alors qu'il y a des millions de personnes dans la rue et pour dire tout de suite après qu'elle ne sera pas appliquée, bon, les gens, autant ceux qui étaient pour, ont été déçus par ensuite que le CPE était retiré. Ceux qui étaient contre, ils ont dit mais c'est quoi cette mascarade? Et je me suis demandé, justement, quand vous dites vous au Sénat, vous avez une position un peu de sage, comment vous pouvez encore imaginer qu'on vous considère comme des sages avec ce remue-ménage qui vient d'avoir?
Oh non, là, si on prend tout ce qui s'est passé autour du CPE, mais quand on regarde ces dernières années, on a une crise politique qui est profonde dans notre pays, où les institutions sont plus que limites aujourd'hui, où tout le monde se rend compte que ça ne peut pas continuer comme ça, où il y a un pouvoir disproportionné au niveau de l'exécutif, au niveau du gouvernement par rapport au Parlement, et même où il y aura besoin de réfléchir par rapport au lien entre le plan national et le niveau européen, puisque par exemple ce qui vous amène aujourd'hui est une transposition d'une directive européenne où on se rend compte que non seulement on transpose dans notre droit, mais bien souvent c'est une occasion, pour pas dire un prétexte, d'aller bien au-delà de ce que demande la directive européenne, et jamais dans un sens social ou plus démocratique, mais toujours pour restreindre ou pour limiter ou pour grignoter ce qu'on appelle les acquis sociaux. Donc c'est clair que les gens ont bien du mal à s'y retrouver, ça nourrit profondément la crise de la politique et le rejet de cette vie politique et qui a un fossé de plus en plus grand entre ce qu'on appelle les élites, même si j'aime pas le terme et si je me reconnais pas, et le peuple, et qu'il faudra trouver d'autres éléments, pas simplement d'équilibre, mais d'autres éléments du débat démocratique entre la démocratie représentative de ceux qui sont investis du pouvoir lié au suffrage universel et la démocratie participative, c'est-à-dire la citoyenneté, et qu'on s'en remette pas simplement à tous les 5 ans ou tous les 6 ans à une élection, et entre-temps, on dit aux gens, on s'excuse, vous êtes plus citoyens, vous nous avez mis en place, nous allons gérer, et puis si vous êtes mécontent, ben, vous nous mettrez à la porte, ce qui se passe, on va d'alternance en alternance, si vous êtes satisfait, vous nous gardez. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que entre deux élections, il y a nécessité de réfléchir, de travailler avec les citoyens, et que chaque fois qu'on fait quelque chose sans les gens, bien souvent ça se retourne contre eux, et que le meilleur moyen de travailler efficacement, c'est justement de les associer étroitement. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui réfléchissent à un Sénat qui pourrait être représentatif de cette citoyenneté. Il faudra trouver les formes et les modes d'élection, mais je pense qu'il y aurait besoin d'avoir justement un équilibre à travers ces deux chambres, parce qu'il y a une utilité d'avoir un bicamérisme comme ça se passe dans notre pays, mais pas comme c'est actuellement. C'est vraiment contre nature et on atteint les limites actuellement.
Mais ce que je voulais savoir, ce n'était pas les dessous du Sénat, mais quelle était l'ambiance quand même pendant le temps du CPE au Sénat, quand on vous a redemandé de travailler le texte?
On a quand même une droite qui était groggy, hein, entre ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que on est dans une situation où non seulement une loi est votée à l'Assemblée avec l'article 49.3, au niveau du Sénat, la position du rapporteur, c'est de dire à sa majorité, il faut qu'il soit voté conforme avec le texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale. Nous, pendant 9 jours, 9 nuits, on résiste, on donne tout ce qu'on a à donner comme argument pour montrer que c'est pas bon, mais on nous dit, bon, vous pouvez toujours parler, de toute manière, nous avons la majorité et nous le voterons. C'est ce qu'ils ont fait. Et en même temps, ils se rendent compte que, même promulgué par le président de la République, c'est la première fois dans nos institutions qu'une loi votée, promulguée, n'est pas appliquée. Et sans qu'elle soit sortie officiellement, un deuxième texte arrive où on dit on retire.
Elle est sortie au journal officiel.
Oui, non, mais sortie, c'est-à-dire que, par exemple, l'article 8... Il n'y a jamais eu le mot on retire le CPE, on a remplacé l'article 8 par un tour de passe-passe avec un article qui donne finalement encore plus d'exonération fiscale aux entreprises, c'est-à-dire qu'on va donner encore plus d'argent public aux entreprises pour s'asseoir quand même dans une précarité à travers ce qui est retenu, à travers la loi dite de l'égalité des chances, où on a quand même le travail pour les mineurs à 14 ans, la possibilité du travail de nuit à partir de l'âge de 15 ans, enfin, toute une série d'aberrations qui représentent une véritable régression sociale, un véritable recul de civilisation, en tout cas un véritable recul sur notre code du travail, tel qu'il a été construit et élaboré par des générations et à travers les luttes. Parce que le code du travail, il n'a jamais été octroyé d'en haut. Il a été toujours acquis de haute lutte par les salariés dans des moments forts de l'histoire du mouvement ouvrier français. Donc on est dans cette situation-là. Alors quand le texte revient sur la partie de l'article 8, c'est clair que les sénateurs de droite, ils sont complètement groggy debout face à nos railleries et à nos colibés. Et bon, comme on a dit, ils ont mangé le chapeau et que peut-être le plus dur, c'était la lanière autour de la tête pour avaler le chapeau.
Parce que là quand justement on parlait de loi d'AFSI, une des premières remarques, et elle a eu lieu avant qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale, c'est que le texte présenté, tout le monde disait, pour ceux qui avaient vraiment étudié le texte, il était inapplicable. Donc il a quand même été voté, et à peine il a été voté, les critiques ont fusé à nouveau pour expliquer dans quel point, précisément, elle serait inapplicable. Donc là, le Sénat va être... Moi, je vois ça arriver comme un deuxième CPE, c'est-à-dire qu'on va vous demander de voter un texte de loi qui ne sera pas applicable.
Si j'écoute les spécialistes ou ceux qui ont travaillé le texte, je ne suis pas assuré, même si ça devrait être le premier travail, car même si on fait une loi, il vaut mieux qu'elle soit applicable et qu'elle offre pas plus d'inconvénients que les textes en vigueur. Mais je ne suis pas sûr qu'à la sortie de l'Assemblée nationale, du Sénat, on ait levé les ambiguïtés et qu'on ait une loi qui, au moins sur les aspects, j'allais dire, au-delà des débats de fond, des questions idéologiques, mais sur les aspects, j'allais dire, techniques ou faisabilité, je suis pas sûr qu'on arrive à une loi qui soit exemplaire de ce point de vue-là. Parce que quand même la tendance ces dernières années, c'est qu'on assiste à des lois qui sont plus des lois d'affichage politique, et c'est notamment vrai sur tout ce qui touche le code pénal. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps à la commission des lois, et donc j'avais tous les textes qui venaient sur les lois Sarkozy, Perben, et même du temps de la gauche, de Guigou ou de Le Branchu, et où on a eu un alourdissement du code pénal, en rendant encore à la sortie le travail des magistrats plus difficile dans la lecture et dans l'interprétation de la loi, et faisant des lois qui étaient source de contentieux et d'insécurité juridique. Et ce qui nous arrive, par exemple, sur les problèmes de la présomption d'innocence avec le procès d'Outreau ou d'autres, en sont la caractéristique. C'est-à-dire que, parce qu'à un moment donné, face à un électorat, face à une opinion publique, on a besoin de montrer qu'on est ferme et qu'on est sur une démarche sécuritaire, on a tendance à en rajouter sans se poser la question, ou même quand, parce que l'opposition, en tout cas, je fais partie de ceux qui amenaient l'accent, qui mettaient le doigt sur ces questions-là, donc ils délibéraient en toute connaissance de cause, mais l'important, c'était de montrer que non, il y avait un discours de fermeté. Et le problème, c'était pas de savoir si ça serait applicable ou si ça allait apporter une réponse d'une qualité supérieure. Ils savaient dès le départ que c'était pas le cas. Mais ça donne le change. Si ça peut permettre de fixer ou de gagner un électorat, c'est l'essentiel. Et comme on est dans un calendrier avec 2007 et 2008 où il y a toute une série d'échéances importantes, tous les textes qui viennent ou qui vont venir, alors, je pense que ce texte-là, par exemple, a été déjà l'objet de ce type de préoccupation, même si globalement, je ne sais pas qui peut ressortir vainqueur de ce texte.
Je pense pas que... Ce que je ne comprends pas, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a une directive européenne et qu'en France, on est allé au-delà de cette directive. Alors, en décembre, c'était drôle parce que, avec les amendements qui ont été déposés avec l'unité droite-gauche, on s'est retrouvé à légaliser le peer-to-peer. Donc là, on était au-delà, dans un sens. Maintenant, en revotant le texte du départ avec cette majorité, on va se retrouver au-delà dans l'autre sens, c'est-à-dire beaucoup plus répressif. Les 3 ans de prison, les 300 000 euros, ça ne faisait pas partie du texte, il me semble. Mais je me demande pourquoi, dans des cas de loi complexes comme ça, on cherche à faire encore plus dans le sens de la répression, parce que ça ne donne pas le temps de réellement voir les conséquences. Et les conséquences, comme vous dites, sont des sources de contentieux supplémentaires. Donc on arrive encore au fait où les gens sont mécontents en disant « mais en France, on est écrasé par les lois » et là, on écrase tout parti confondu. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie d'un podcast réservé à la loi d'AFSI et son étude au Sénat. Cette deuxième partie était plus particulièrement orientée vers le fonctionnement des institutions et vous avez sans doute noté que la couleur politique était légèrement plus prononcée. Rappelons que le sénateur Robert Brett est membre du Parti communiste, mais j'espère que vous avez aimé sa liberté de ton et vous pouvez laisser vos commentaires sur mon site Melting Talk, www.meltingtalk.com. Je vous donnerai le lien du blog de Robert Brett si vous souhaitez lui écrire directement. À bientôt et restez connectés avec Melting Talk.